VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du mardi 17 décembre 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Le sommet sur le Sahel, annulé la semaine dernière après une attaque djihadiste au Niger, a été reprogrammé pour le 13 janvier à Pau, dans le sud-ouest de la France.
En Gambie, des milliers de personnes ont manifesté ce lundi à Banjul, scandant le slogan « 3 ans, ça suffit » contre le président Adama Barrow.
En République démocratique du Congo, les ADF ont encore massacré des civils à Beni, dans le nord-est du pays.
En République centrafricaine, retour annoncé de l'ex-président François Bozizé après 6 ans d'exil.
Au Tchad, le ministre de l'économie, Issa Doubrang, et son directeur général, placés en garde à vue dans une affaire de détournement de fonds.
Le constructeur aéronautique Boeing se résout à suspendre la production du 737 MAX, interdit de vol, après 2 accidents qui ont fait 346 morts en quelques mois.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Le sommet sur le Sahel a été reprogrammé pour le 13 janvier à Pau, dans le sud-ouest de la France, pour réévaluer les objectifs de l'engagement français dans la zone. Dans le même temps, les États-Unis dénoncent l'inertie des dirigeants de la région face aux djihadistes. Les précisions d'Irénée Herman Ungbo.
Les présidents de 4 des 5 pays du Sahel, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, ont confirmé leur accord pour cette date selon l'Élysée, qui n'a fourni aucune précision pour la Mauritanie. Hier, les États-Unis se sont montrés critiques à l'ONU à l'égard des pays du Sahel, jugeant que leurs dirigeants ne font pas assez pour stabiliser la région. Pour lutter contre la violence et renforcer la stabilité, nous avons besoin d'un engagement accru des gouvernements régionaux, a souligné au Conseil de sécurité une diplomate américaine, Sherit Norman. N'avoir qu'une réponse militaire empêche souvent de traiter les raisons qui sont à l'origine d'un conflit violent, a-t-elle indiqué. Sherit Norman a en particulier pointé du doigt le manque d'avancées constatées au Mali malgré l'accord de paix conclu à Alger en 2015. Nous restons préoccupés du peu de progrès effectué par le gouvernement du Mali et les groupes armés signataires de l'accord dans son application, a-t-elle souligné.
En Gambie, des milliers de personnes ont manifesté hier à Banjul pour demander au président Adama Barrow de quitter le pouvoir après 3 ans, comme il s'y était engagé en devenant le candidat unique de l'opposition fin 2016. Monsieur Barrow veut maintenant rester jusqu'à 2021. Le point avec Abdourahman Dia.
Encadrés par les forces de l'ordre, les manifestants ont défilé en un grand cortège dans les rues de Banjul au rythme de la musique de Bob Marley, scandant « 3 ans, 3 ans ». Le mouvement de la société civile Trios Jotna, 3 ans, il est temps, fondé par un homme d'affaires gambien vivant aux États-Unis, Moussa Kaira, avait appelé à cette manifestation. Investi par une coalition de l'opposition contre le président Yahya Jammeh, Adama Barrow a remporté la présidentielle du 1er décembre 2016. Il a prêté serment à l'ambassade de Gambie à Dakar alors que Yahya Jammeh a été forcé de partir en exil après une intervention régionale. Selon la charte fondatrice de la coalition 2016, le nouveau président devait diriger un gouvernement provisoire pendant 3 ans. Maintenant, Adama Barrow, qui vient d'achever une tournée du pays aux allures de campagne électorale, assure toutefois que personne ne pourra le forcer à quitter la présidence avant 2021.
En République démocratique du Congo, 12 civils ont été tués hier et 9 autres blessés dans une nouvelle attaque des rebelles ADF dans la région de Beni, dans le nord-est du pays. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
D'après Pascal Sambili, chef de Watalinga, les ADF ont fait irruption à Kamango et ont tué des civils à la machette et à l'arme à feu. À l'arrivée des militaires, les assaillants ont battu en retraite en s'exprimant en Kinganda, une langue parlée en Ouganda, a déclaré Faustin Baswiki, président du comité des jeunes de Kamango. Dimanche, 22 civils ont été tués à Kamango, près de la frontière ougandaise, selon Donat Kibwana, administrateur du territoire de Beni. La veille, 6 civils ont été tués dans une autre attaque à Beni. Selon Leila Zerougi, chef de la MONUSCO, ces attaques visent à briser la confiance de la population et discréditer les troupes congolaises et la mission de l'ONU. Depuis le 28 octobre, le chef d'état-major des forces armées, le général d'armée Célestin Bala, s'est installé avec son équipe à Beni. Un autre général, John Numbi, a été envoyé en renfort quelques jours après. Dans son premier discours sur l'état de la nation vendredi, le président Félix Tshisekedi, qui, dès son élection, s'était engagé à pacifier l'Est, a indiqué avoir changé le commandement de l'armée dans cette région.
Par ailleurs, 291 dissidents d'un groupe armé rwandais Hutu actif dans l'Est de la RDC ont été rapatriés au Rwanda avec leurs dépendants après avoir été défaits par l'armée congolaise, a-t-on appris lundi de sources militaires congolaises. Ces rebelles appartenaient au Conseil national pour la Renaissance et la démocratie, le CNRD, une dissidence des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR. 11 enfants étaient avec eux. La cérémonie de transfèrement de ces rebelles capturés s'est déroulée au poste frontalier de Ruzizi à Bukavu, dans le sud Kivu, en présence de deux généraux des armées congolaises et rwandaises. Le 8 décembre, l'armée congolaise avait fait état de la reddition de 1200 rebelles hutu-rwandais du CNRD dans la même province.
En Centrafrique, l'ex-président François Bozizé est revenu au pays, a annoncé hier son parti. S'il est confirmé, ce retour annoncé de longue date pourrait bouleverser le paysage politique à un an de la présidentielle prévue fin 2020. Le point avec Bagassi Koura.
Je peux vous le dire de la manière la plus solennelle, François Bozizé se trouve bel et bien à Bangui, a annoncé hier Bertin Béa, secrétaire général du KNK, le Kwanakwa, la formation politique de l'ancien président. Il ajoute que dans les jours à venir, François Bozizé prendra la parole, mais ne me demandez pas comment il est arrivé, ni où il se trouve. Cette annonce ne me semble pas crédible, a réagi le porte-parole du gouvernement, Maxime Ange Kazagi. Selon le code électoral, les candidats à la présidentielle de décembre 2020 doivent se trouver sur le territoire national au moins un an avant le scrutin. François Bozizé a dirigé le pays de 2003 au coup d'État de 2013. Après des années d'instabilité, la SELECA, une coalition de rebelles musulmans, met en débandade l'armée régulière et prend Bangui. François Bozizé doit fuir la capitale et prendre le chemin de l'exil. Après son départ, la Centrafrique sombre dans une spirale de violence intercommunautaire.
Au Tchad, le ministre de l'économie, Issa Doumragne, et son directeur général ont été placés en garde à vue lundi soir à N'Djamena. Cette mesure entre dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour détournement de fonds et complicité de détournement, a indiqué à l'AFP leur avocat. Il a précisé qu'ils sont soupçonnés d'avoir détourné des fonds dans le cadre de marchés publics passés depuis 2016.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, le président Donald Trump sera mis en accusation cette semaine pour abus de pouvoir, mais l'organisation de son procès historique en destitution déchire déjà les républicains et leurs opposants démocrates qui veulent entendre plusieurs responsables de la Maison-Blanche. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Le président américain a abusé de ses pouvoirs à des fins politiques personnelles et a déployé des efforts sans précédent pour entraver l'enquête du Congrès. Dans un rapport de 658 pages mis en ligne lundi, les démocrates sont revenus sur les deux chefs d'accusation qui seront soumis au vote probablement mercredi à la Chambre des représentants. Au Sénat où va se tenir le procès par la suite, les républicains auront la main sur la procédure et leur leader, Mitch McConnell, a déjà fait savoir qu'il va coordonner étroitement avec les avocats de la Maison-Blanche. Pas décidé à perdre totalement la main, le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a plaidé lundi pour un procès juste et honnête qui devrait selon lui commencer dès le 6 janvier. Dans un courrier à M. McConnell, il a demandé la convocation de quatre proches de Donald Trump, dont l'ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, ou le secrétaire général de la Maison-Blanche, Mick Mulvaney, qui n'avaient pas été autorisés à témoigner à la Chambre basse du Congrès. Selon M. Schumer, leur témoignage est essentiel car les quatre en question ont une connaissance directe des raisons pour laquelle l'administration avait gelé près de 400 millions de dollars destinés à aider l'Ukraine dans son conflit armé avec la Russie. La Maison-Blanche a jugé cette requête risible et le président Trump lui-même n'a de cesse de dénoncer une chasse aux sorcières.
Le constructeur aéronautique Boeing a décidé hier de suspendre à partir de janvier la production de son avion vedette, le 737 MAX, faute d'avoir obtenu l'aval des autorités aériennes pour le faire revoler. La décision de clouer au sol les 737 MAX avait été prise par les autorités du monde entier après l'accident d'un appareil de la compagnie Ethiopian Airlines qui a fait 157 morts le 10 mars dernier. Moins de 5 mois avant, l'accident meurtrier d'un autre 737 MAX de la compagnie indonésienne Lion Air fin octobre 2018 avait tué 139 personnes dans des conditions similaires.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Muniteco Irénée Herman Ungo.
Au Nigeria Afex Commodity Exchange Limited, une bourse de matières premières agricoles a obtenu un investissement d'un montant non divulgué de Consonance Investment Manager, une plateforme dédiée au financement d'entreprises en phase de démarrage et de croissance en Afrique subsaharienne. La société de route et de bâtiments Sorubat s'installe au Niger. Cette structure béninoise au capital de 2,2 milliards de francs CFA a ouvert une succursale dans ce pays du Sahel. Spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics, elle aura donc comme activité la construction des routes, le drainage et l'assainissement. La Banque africaine de développement vient d'accorder 20 millions d'euros au Cap-Vert pour la deuxième phase du programme d'amélioration de la compétitivité du secteur privé et de développement de l'économie locale. Le groupe bancaire français Banque Populaire Caisse d'Épargne, qui détient une participation de 60% dans le capital de la banque tuniso-coïtienne, a décidé de céder la totalité de ses actions à l'État tunisien. L'opération permet à Tunis, qui détenait autrefois 20% des parts dans le capital de la BTK, de monter à 80%, devenant ainsi l'actionnaire principal.
Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
On connaît les affiches des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
Oui, le tirage au sort a été effectué par l'UEFA à Nyon en Suisse. Le grand choc de ces huitièmes opposera le Real Madrid avec 13 titres à Manchester City. Lyon jouera la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo. Grosse double confrontation en vue également entre l'Atlético Madrid du Ghanéen Thomas Partey et Liverpool de Mané Salah et Naby Keïta. Deux Sénégalais s'affronteront aussi lors de ses huitièmes, Moussa Wagé du FC Barcelone et Kalidou Koulibaly de Naples. Le PSG fera face au Borussia Dortmund le 18 février 2020 pour le match aller avant de recevoir son adversaire allemand au Parc des Princes le 11 mars au match retour. À suivre également Chelsea, Bayern, Tottenham, RB Leipzig et Atalanta Bergame, Valence.
Tirage au sort effectué également en Europa League.
Oui, Arsenal du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et de l'Ivoirien Nicolas Pepe devra gérer un chaud déplacement chez les Grecs de l'Olympiakos en 16e de finale. Manchester United reçoit le FC Bruges. L'Ajax Amsterdam du Marocain Hakim Ziyech affronte la robuste équipe de Retafe du Togolais Djéné Dakounam. Reversé de la Ligue des Champions, l'Inter de Milan d'Antonio Conte joue les Bulgares de Ludogorets. Les Rangers devront défier les Portugais de Braga tandis que le Celtic est tombé sur Copenhague. L'AS Monaco a hérité de la Gantoise et Benfica s'est retrouvé face au Shakhtar Donetsk. Les matchs allés auront lieu le 20 février et ce retour une semaine plus tard.
La CAF savoure sa victoire contre Lagardère Sport.
Oui, la Confédération africaine de football s'est réjouie de la sentence prononcée par la Chambre de commerce internationale contre Lagardère Sport. Cette dernière structure avait allégué que la CAF a illégalement résilié le contrat qui les lie et demandait en conséquence que la CAF revienne sur sa décision. L'arbitre du a rejeté toutes les demandes de Lagardère Sport qui doit en outre supporter les frais de la procédure d'arbitrage et contribuer pour plus de 60 000 euros aux frais de justice de la CAF. À moins d'un nouveau rebondissement, eh bien la CAF peut annoncer son prochain partenaire pour la commercialisation des droits marketing du football continental.
Fin de saison pour Memphis Depay.
L'Olympique Lyonnais a annoncé que son capitaine, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche face à Rennes en championnat de France, va rater la fin de saison. L'indisponibilité ne devrait pas être inférieure à 6 mois, a expliqué le club français, ce qui ôte pratiquement tout espoir de participation de l'international néerlandais à l'Euro 2020. Memphis Depay, 25 ans, évolue à Lyon depuis 2017. Il compte 52 sélections avec les Pays-Bas.
Basketball pour terminer, quelques résultats de la NBA. Washington et Détroit 133 à 119, Toronto et Cleveland 133 à 113, Memphis et Miami 118 à 111, Portland et Phoenix 111 à 110, Dallas et Milwaukee 120 à 116, Oklahoma City et Chicago 109 à 106, Houston et San Antonio 109 à 107.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Difficile d'avancer des chiffres sur la situation des violences faites aux femmes en Côte d'Ivoire. Pourtant, le mal est réel et touche de nombreuses femmes. La lutte contre ces violences s'intensifie. Le point avec Siriki Baro à Boaké.
Parler ou dénoncer les auteurs est un exercice encore très difficile pour les femmes qui subissent des violences. Rokia Ouattara en a connu dans son couple. Aujourd'hui, elle s'est engagée dans la lutte. Et son combat, c'est de convaincre les femmes victimes de dénoncer les auteurs.
Nos sœurs ont peur de faire les témoignages. Parce qu'il y a cette peur qui est là. Il faut qu'on puisse amener ces femmes victimes à poser plainte.
Amie Traoré est écrivain et activiste féminine. Victime d'excision, elle a décidé de faire de sa plume son arme de combat.
J'ai décidé de créer beaucoup de projets autour du livre comme moyen de sensibilisation. Et en cet effet, j'ai publié une œuvre autobiographique, Le couteau brûlant. Ça nous a vraiment permis de sillonner des lycées et collèges. Parce que moi, je me dis que dans toute cette lutte-là, c'est plus une question de femmes, c'est une question de société qui concerne tout le monde.
En première ligne de la lutte contre les violences basées sur le genre, plusieurs ONG. OIS Afrique est l'une d'entre elles. Cette organisation non gouvernementale aide à la prévention et tente de rétablir les femmes victimes dans leurs droits. Norbert Conan, coordonnateur de cette ONG, pense que les premiers résultats de la lutte sont encourageants.
Il y a peut-être 10 années de cela, c'était difficile vraiment à une personne d'aller au niveau, par exemple, de l'hôpital, dire que j'ai été victime de violences sexuelles ou bien au niveau de la police. Mais avec les sensibilisations, la prévention, la mise en place des comités de protection dans les quartiers, de nos jours, ces femmes-là, quand elles ont été victimes de violences sexuelles, vont directement dans les centres de santé se faire consulter.
Aider les femmes à sortir de la précarité, c'est la lutte engagée par Anne-Marie Yao, présidente de l'ONG Femmes Debout pour le Progrès et la Paix en Côte d'Ivoire. Et pour parvenir à cette ambition, elle arrive à fédérer les femmes autour d'elle et prône l'entraide.
On a commencé à faire des petites tontines entre nous. On a commencé avec 500, on était 25 femmes, mais les plus vulnérables. Je leur inculquais comment il ne faut pas confondre les bénéfices et le prix d'achat. Aujourd'hui, toutes ces femmes-là, elles sont installées.
L'État a doté une vingtaine de postes de police, de bureaux du genre, afin de faciliter l'accès des victimes aux différentes voies de recours. Siriki Baro, Boaké, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
La restitution par la France au Bénin de 26 œuvres d'art annoncées en 2018 se fera dans le courant de l'année 2020, peut-être au début de l'année 2021, a indiqué hier à Cotonou le ministre français de la Culture. Le gouvernement béninois doit encore définir le lieu qui accueillera cette restitution, a ajouté le ministre. Mais les autorités béninoises estiment que les lieux devant accueillir les œuvres d'art sont déjà prêts. C'est du moins ce qu'a dit à Irénée Herman Ungbo, José Plia, directeur général de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme au Bénin.
Nous sommes prêts et moralement, et symboliquement, et économiquement, parce que c'est évidemment des objets qui ont une valeur touristique et économique, mais nous sommes également responsables. Et il est important que ces objets qui sont désormais patrimoine de l'humanité, tout en étant bien sûr et premièrement béninois, soient conservés dans de très bonnes conditions pour rester des œuvres accessibles à tout le monde. Voilà pourquoi nous sommes en train de travailler à des musées de classe internationale, à Ouida et à Abomé, qui sont en cours de construction et qui devraient être prêts, l'un, celui de Ouida, fin 2020, 2020, début 2021, et l'autre, celui d'Abomey, qui sera leur destination finale en 2022, pour pouvoir accueillir ces objets dignement.
Ne fallait-il pas apprêter ces endroits d'abord avant de réclamer la restitution?
Non, parce que c'est un processus parallèle. Vous savez, quand nous avons lancé nos projets programme muséo, nous avons parallèlement fait la demande. Et comme vous le savez, dans une première phase, il y a eu le refus des autorités françaises. Nous ne sommes pas démobilisés pour autant. Nous avons poursuivi notre programme de musée tout en poursuivant l'effort. Et il faut le reconnaître, ça a été un coup de théâtre pour tout le monde de voir que le président Macron a eu le courage de rendre immédiatement 26 objets. Mais passé cette nouvelle-là, nous nous sommes dit, très bien, nous sommes dans le bon tempo. De toute façon, des musées étaient prévus. Il faut le temps pour faire un musée. C'est un ouvrage complexe. Ça ne se fait pas en un an ou en deux ans. Vous savez qu'il faut également passer par une loi en France. Il n'est toujours pas voté pour pouvoir les dénationaliser. Ces objets étaient français. Il faut qu'ils soient désormais dénationalisés pour pouvoir sortir du territoire. Donc, il y a tous ces processus législatifs. Donc, le temps que nos musées sont en train de se préparer n'est pas du tout un temps perdu.
Mais pourquoi 2021-2022, c'est pas trop loin?
On se serait précipité pour les accueillir parce qu'on nous les donnait tout de suite, sans préparation, sans finition de nos préparations, que c'est les mêmes qui diraient « Ah, vous voyez, on les aura donnés, ils ne sont pas capables de les entretenir, on aurait mieux fait de les garder au Quai Branly ». Non. On a voulu une démarche responsable, cohérente, et c'est ce que nous sommes en train de faire, et l'aboutissement est vraiment pour tout bientôt.
Alors la question revient assez fréquemment aujourd'hui, si le Bénin a véritablement les moyens, la capacité de pouvoir recevoir, entretenir ces objets d'art. Pouvez-vous confirmer si oui ou non?
Oui, absolument, je vous le confirme. Comme je vous ai dit, des musées de facture internationale, nous avons les plus grands experts, vous connaissez les Smithsonian, bien sûr, mais également le Quai Branly, tous les partenaires internationaux sont au chevet de la construction de ces musées, des conditions thermiques d'accueil pour que les conditions soient idéales. Mais au-delà donc des conditions d'accueil, il y a les conditions de pérennisation, de maintenance dans la durée. Dans les programmes de financement que nous avons, il y a de grosses composantes de formation des conservateurs, de formation à la préservation, à l'entretien. Et le gouvernement s'est déjà engagé sur les prochaines années à voter des dotations fortes.
C'était José Plia, directeur général de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme du Bénin.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En Afrique du Sud, la grande entreprise publique d'électricité Eskom tourne au ralenti. L'entreprise cumule une dette de 30 milliards de dollars, soit 15% de la dette de l'État sud-africain. Résultat des délestages quasi quotidiens dans tout le pays. Le point avec Patricia Huyon à Johannesburg.
Depuis environ une semaine, les coupures d'électricité sont devenues une réalité quasi quotidienne en Afrique du Sud. Chacun s'organise comme il peut en fonction des horaires de délestage annoncés quartier par quartier par Eskom, la compagnie nationale d'électricité.
Donc quand je rentre et qu'il n'y a pas d'électricité, j'allume les bougies. Pratiquement tous les jours. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Le frigo, la bouilloire électrique, le four micro-ondes, machine à laver. Ça impacte tout ce que vous faites dans la journée, le travail.
Les conséquences sont lourdes pour de nombreux commerces et entreprises. Ceux qui le peuvent s'équipent en prévision de nouvelles coupures, comme dans ce restaurant de Johannesburg.
Les commerces ont déjà des difficultés pour s'en sortir. Et là, vous investissez dans un générateur qui coûte entre 700 et 3500 dollars, de l'argent qui pourrait être investi autrement pour développer les affaires.
D'après les explications de la compagnie Eskom, les faibles performances de ces centrales serait dû aux récentes pluies qui auraient laissé les réserves de charbon détrempées. Mais le problème est plus profond. Une énorme dette, des infrastructures vieillissantes, Eskom ne parvient plus à répondre à la demande. Avec souvent 4 heures de délestage par jour, parfois plus, la facture pèse lourd sur une économie sud-africaine qui se porte déjà mal. Chris Yeland, expert en énergie.
Ça a un gros impact sur les commerces, les industries, les mines, les sociétés et les
investisseurs n'osent pas agrandir leur business par crainte de ces difficultés d'approvisionnement en électricité.
Eskom fournit 95% de l'électricité en Afrique du Sud et sa situation menace le reste de l'économie. Le gouvernement fait donc un effort colossal pour tenter de stabiliser l'entreprise. En février, le ministre des Finances, Tito Mboweni, annonçait un plan de sauvetage sur 3 ans, suivi d'un second annoncé en catastrophe en juillet.
Ce soutien que nous annonçons aura un coût significatif pour le trésor public et pour les contribuables sud-africains.
Malgré l'intervention du gouvernement, pour l'instant, la compagnie d'électricité fonctionne à perte. Pire, elle symbolise la situation catastrophique de la plupart des entreprises publiques du pays, victimes de mauvaise gestion et de pillage de fonds publics. Patricia Huon, Johannesburg, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Ici à Washington, les démocrates sont à un pas de la mise en accusation du président Donald Trump. Après 14 heures de débats partisans, la commission judiciaire de la Chambre des représentants a formalisé les articles accusant M. Trump d'abus de pouvoir et d'entrave à la bonne marche du Congrès. Le point avec Bagasikoura.
Cette semaine, Donald Trump sera le troisième président mis en accusation dans l'histoire des États-Unis. Étant lui-même visé, il dénonce le processus.
Utiliser la mise en accusation est un embarras pour ce pays.
Les démocrates qui dominent à la Chambre ont retenu 2 articles de mise en accusation qui seront adoptés par un vote à majorité simple en séance plénière. Un procès au Sénat doit suivre au début de l'année prochaine. Ils accusent le président d'avoir utilisé l'aide américaine à l'Ukraine pour ses propres intérêts politiques. Gerald Nadler est président de la commission judiciaire de la Chambre.
Quel est le risque si nous ne faisons rien? Au cours des 94 derniers jours, depuis le début de l'enquête parlementaire, en réalité, au cours des 3 dernières années, une vérité incontestable est apparue. Si nous ne répondons pas aux abus de pouvoir du président Trump, les abus vont continuer. Nous ne pouvons pas compter sur des élections pour résoudre nos problèmes lorsque le président lui-même menace l'intégrité de ces élections.
Les républicains soutiennent le contraire. Pour eux, l'appel téléphonique du président le 25 juillet avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky était une tentative de lutter contre la corruption en Ukraine et pas pour obtenir une contrepartie politique. Selon eux, il n'y a rien de nouveau car les démocrates ont toujours cherché à destituer Trump. La représentante républicaine Debbie Lesko.
They predetermined they were going to do it.
Ils étaient déjà décidés à le faire et ils l'ont fait. Ils n'ont aucune preuve, aucun crime, mais ils ont continué et ils déchirent le pays.
Historiquement, les mises en accusation des présidents ont toujours divisé le pays. Même si la moitié des Américains n'est pas pour la destitution de Trump, les démocrates affirment que l'opinion est de leur côté. Nancy Pelosi est présidente de la Chambre des représentants.
Le public pense qu'il doit déterminer qui est le président des États-Unis et pas une puissance étrangère. Le public pense que personne n'est au-dessus de la loi. Nous pensons de même, le président doit être tenu responsable des abus de pouvoir et d'obstruction au Congrès.
Le procès au Sénat dominé par les républicains va certainement exonérer le président et le garder au pouvoir. Kevin McCarthy, leader républicain à la Chambre des représentants.
Le président a dû publier les transcriptions de cet appel téléphonique au monde entier. Cela a affaibli le bureau du président et c'est lui qui occupera ce poste à l'avenir. Que leur appel téléphonique ne soit livré au reste du monde.
Tout ira très vite, quelles que soient les retombées, car 2020, c'est aussi une année électorale aux États-Unis.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez à la en appelant au 001-202-205-2633. 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.